Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bonjour à vous dans cette nouvelle capsule L'amour vaincra. Je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, je suis prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la tradition monastique. Et nous allons commencer par voyager du côté du Tibet pour parler des Dalai Lamas, avant de revenir dans nos contrées plus proches avec les monastères bénédictins. Et puis ensuite, nous passerons à l'évangile du jour. Nous commençons avec le titre de Dalai Lama. Savez-vous ce que signifie ce titre ? Il vient du mongol. Et oui, c'est un titre mongol, qui signifie Dalai, océan, Lama, maître, maître spirituel. Dalai Lama, océan de sagesse, maître océan, maître à l'image de l'océan. La traduction est difficile, mais vous aurez compris à travers l'océan le terme d'immensité et aussi de compassion, et à travers Lama, le titre de sagesse et de maître. D'où d'ailleurs le nom de Lamasri, une école de sagesse. C'est un titre récent qui a été appliqué au XVIe siècle à des chefs spirituels d'un ordre monachique, c'est-à-dire de moines, situés au Tibet, à Lhasa. Il y a en effet dans cette ville un ordre monastique qui s'était implanté là, l'ordre monastique des Drepung, et au troisième père abbé, je ne sais pas très bien comment il faut dire, au troisième abbé de cet ordre monastique bouddhiste, un souverain mongol au XVIe siècle a donné le titre de Dalai Lama. Et depuis, tous les chefs de cet ordre monastique s'appellent les Dalai Lama. Nous en sommes aujourd'hui au 14e Dalai Lama. Passons maintenant, pour continuer notre voyage, aux différentes pièces que vous pourriez trouver si vous alliez visiter un des monastères bouddhistes qui se trouve à Lhasa. Vous trouveriez par exemple d'abord une, ou plutôt un stupa, ou stupa, encore une fois, vous m'excuserez pour la prononciation. Un stupa, c'est un monument bouddhiste commémoratif et symbolique qui est généralement construit pour abriter des reliques de Bouddha ou d'un autre maître bouddhiste éminent. Les stupas peuvent être de tailles variées, revêtir des formes architecturales diverses, mais derrière vous retrouvez la vénération envers la grande tradition bouddhiste et les maîtres de sagesse. Vous pourriez trouver encore une salle de débat. Dans certains monastères, une salle de débat est dédiée aux discussions philosophiques et aux joutes oratoires entre les moines. Le but n'étant pas de briller, le but étant de s'approprier et d'approfondir la compréhension des doctrines bouddhistes, et que le meilleur moyen est encore d'en parler. Vous trouveriez évidemment une bibliothèque avec d'importantes collections de textes sacrés. Vous trouveriez encore des quartiers d'habitation des moines qui peuvent être ou en cellules, c'est-à-dire des pièces individuelles, cellule étant l'héritier d'un mot latin cellula, cellulae féminin qui veut dire la petite pièce, ou bien des dortoirs collectifs. Vous trouveriez encore, évidemment et surtout, la pièce principale du monastère, ce qu'on appelle le grand temple ou Gompa, où se déroulent les cérémonies religieuses collectives, les prières et les enseignements. Généralement, on y trouve des statues imposantes de Bouddha et d'autres divinités, ainsi que des peintures murales et des peintures sur tissu que l'on appelle les Tanka. Pour terminer notre voyage, revenons un instant dans nos contrées occidentales et posons-nous là à nouveau la question : quel monastère trouveriez-vous en comparaison dans des monastères chrétiens, ce qu'on appelle des monastères bénédictins, cisterciens, chartreux, trappistes, enfin il y en a de toutes sortes, mais il y a toujours des points communs. Vous retrouverez bien, à la place du grand temple, une chapelle ou une église où se déroulent les grandes cérémonies et les grandes prières. Vous trouveriez bien encore une bibliothèque, souvenez-vous de la tradition des moines copistes, et vous trouveriez évidemment des dortoirs. Mais ce que vous trouveriez aussi serait un cloître. Un cloître, c'est-à-dire un carré central, un carré de verdure. Au centre de tous les monastères bénédictins, en tout cas tous les monastères traditionnels, vous avez un jardin. Ce jardin est en carré qui représente l'univers et normalement au centre de ce jardin, il y a une fontaine qui représente la grâce de Dieu qui s'écoule. Et tout autour de ce jardin, vous avez ce qu'on appelle un couloir, un déambulatoire qui vous permet de dire vos prières. De quoi ce jardin central est-il l'image dans les monastères bénédictins ? Il est l'image du jardin d'Éden, le paradis retrouvé sur terre, car quand des moines essayent de vivre ensemble dans la charité, on dit que à nouveau ils ont trouvé sur terre la porte d'entrée du royaume céleste. Nous passons maintenant à l'évangile du jour. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il en est comme d'une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Ah, les paraboles. Je crois bien que dans les enseignements de Jésus, cela fait partie aussi de mes préférés, même si j'ai tendance à dire que tout est mon préféré dans les évangiles. Mais quand même, ces histoires qui sentent bon le folklore, le quotidien, les images, campagne et un je ne sais quoi de bucolique et d'évangélique, moi, tout cela me fait rêver. Sauf que, attention, vous connaissez tous probablement au moins une ou deux paraboles. Le bon samaritain, un semeur étant sorti pour semer, ou bien encore la personne qui a perdu une pièce de monnaie et qui va fouiller à travers toute sa maison. Aujourd'hui, vous en avez deux. La graine de moutarde qui finit par dépasser toutes les plantes potagères, et puis cette autre graine qui pousse et qui germe sans qu'on ne sache comment. Bref, vous connaissez tous au moins une ou deux paraboles, et peut-être, si vous avez l'habitude d'aller à la messe le dimanche ou bien de méditer sur la Bible, peut-être, dis-je, avez-vous l'impression de les connaître ? Et là, moi je dis, grave erreur. Une parabole, ça devient dangereux quand on croit l'avoir compris. Donc, aujourd'hui, en guise d'homélie, nous essayons d'élargir et d'ouvrir les pistes et les interprétations possibles. Je reprends avec vous la première parabole, cette histoire de graines qui germent et qui grandit tout seul. Je cite, « Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, on ne sait comment ». Comme on aimerait que ce soit vrai d'ailleurs, de voir les choses se faire sans qu'on ait besoin de quitter son lit. Bref, mais cela veut dire quoi quand le Christ dit « La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » C'est quoi cette histoire d'herbe, d'épi et de blé ? Parce qu'après tout, dans une parabole, le moindre détail a son importance. Alors, petit panel des interprétations possibles glanées au gré de mes lectures sur les pères de l'Église. Interprétation numéro 1. Saint Jean Chrysostome. Excusez du peu. Nous commençons avec lui. Saint Jean Chrysostome dit, dans cette parabole, Jésus-Christ distingue trois classes de fidèles. Je suppose que les trois classes de fidèles ici, c'est l'herbe, puis la tige, puis l'épi. Reprenons saint Jean Chrysostome. Il nous a montré trois classes de fidèles distinguées par les degrés divers de foi et de vie chrétienne. Et cette nouvelle parabole nous dit que parmi ces trois classes de fidèles, ces trois différents degrés de foi et de vie chrétienne, un seul sera sauvé. Sauf que saint Jean Chrysostome ne dit pas lequel. Donc nous voilà bien avancés, même si on se dit que peut-être y a-t-il un lien avec cette autre parabole du semeur sorti semé. Alors là, maintenant, c'est moi qui parle. Mais peut-être que cette herbe désigne en fait ceux qui ont été semés le long du chemin et qui n'ont pas accepté la parole. Quant à l'épi, cela désignerait peut-être ceux qui ont été semés dans les graviers et aussitôt ils ont poussé, mais dès que le soleil est apparu, ils se sont desséchés. Et puis, la dernière catégorie, celle qui reste dans la vie éternelle, nous dit Saint Jean Chrysostome, l'épi, ce serait ceux qui ont été semés dans la bonne terre, qui ont accueilli la parabole, qui l'ont méditée pour lui faire porter du fruit. Bref, interprétation numéro 1. Passons à l'interprétation numéro 2. Saint Jérôme. Citation. Cette herbe, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, comme le dit le psaume 110. Puis un épi, c'est-à-dire la pénitence avec ses larmes. Et enfin, le blé qui remplit l'épi, c'est-à-dire la charité, car la charité est le parfait accomplissement de la loi. Romains 13. Alors là, il y a des choses intéressantes. Parce que la première interprétation mettait l'accent sur le jugement. Cette fois-ci, cette deuxième interprétation met l'accent sur l'accomplissement et l'éternité. Parce que saint Paul nous dit qu'au ciel, seul restera la charité. Donc vous avez cette tige qui grandit et puis à la fin qui porte un épi. On prend la faucille, image de la mort et du jugement, et ensuite on le garde pour la vie éternelle. Au ciel, seul subsistera la charité, et ce que vous n'avez pas fait dans la charité, eh bien ne subsistera pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir le processus que donne saint Jérôme, qui nous dit que ça commence avec la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu ici, c'est peut-être quelque chose de compliqué, ce n'est pas d'abord avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est admirer Dieu. Parce que Dieu est un mystère tellement saisissant que en face de lui, on est comme pris d'effroi, mais d'un effroi devant le sacré. L'homme qui commence à s'apercevoir qu'au cœur de sa vie, il y a un mystère qui le dépasse et qui se met à se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est la crainte de Dieu et ça, c'est le commencement de la sagesse. Et alors, il va essayer de changer de vie pour comprendre quel est ce mystère qui l'angoisse, qui le saisit, qui le poursuit. Et ça, pour saint Jérôme, c'est la pénitence avec les larmes. La pénitence avec les larmes, évidemment, est quelque chose qui peut effrayer, mais en même temps, si jamais je vous disais que vos larmes avaient le pouvoir d'effacer le péché et le mal que vous avez commis, si jamais je vous disais que les larmes avaient le pouvoir de redonner à votre âme sa sagesse, qui n'aurait envie de pleurer? Mais il ne suffit pas de pleurer pour aller au ciel, et c'est là que la tige devient l'épi, c'est-à-dire la charité. L'amour de Dieu, parce que empli de son mystère, parce que saisi du désir de faire le bien, vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain, et hop, la faucille arrive, vous êtes au ciel. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, c'était le frère Paul Adrien, et vous avez, avec l'assurance de ma prière, l'expression tout aussi sincère, vraiment, de mon amitié. Bon dimanche.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant l'amour vaincra.